La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à notre émission. Vous êtes fin prêts pour aller à nouveau dans l'univers du cheval. Et comme disait Bobby Lapointe, encore du saucisson de cheval. Ce sera donc de cheval dont on parlera. Et pour commencer, nous allons chez Grimm voir l'histoire d'un cheval qui réussira à survivre grâce à la ruse du renard. Voyez plutôt. Un paysan avait un vieux cheval fidèle, mais si vieux qu'il n'était plus bon à rien. Alors son maître, qui ne voulait plus nourrir cette bouche inutile, lui parla comme ceci. « Il est clair que je ne peux plus me servir de toi. Eh bien, que j'ai pour toi les meilleurs sentiments, je ne pourrai malgré tout pas te garder et continuer à te nourrir, à moins que tu te montres assez fort pour m'amener un lion ici. En attendant, tu vas sortir immédiatement de l'écurie. » Le pauvre cheval s'en alla tristement à travers les prés, se dirigeant vers la forêt où il pourrait au moins trouver un abri contre le mauvais temps. Sur son chemin, il rencontra le renard, qui lui demanda « Mais pourquoi cette tête? Ce pas lent, cet air si abandonné ?»« Hélas, le renard !» Les inéloyautés ne sauraient partager le même toit. Mon maître a vite oublié les nombreuses années pendant lesquelles j'ai trimé pour lui. Et parce que je ne puis plus guère labourer maintenant que j'ai vieilli, il me chasse et ne veut plus me nourrir. Et comme ça, hein, sans la moindre consolation ? Demanda le renard. Piètre consolation que la sienne, il m'a dit que si je me montrais assez fort pour lui amener un lion, il me garderait. Mais il sait fort bien que j'en suis incapable.
Enfin, ça prouve quand même qu'il y avait des lions dans nos forêts. Parce que c'est pas la première fois que je vois dans des textes du XIIe ou XIIIe siècle que dans les forêts, on y trouvait des lions.
« Attends, attends !» dit le renard. « Mais je vais te prêter assistance. Couche-toi là, par terre, et fais le mort. Ne bouge plus, je m'occupe du reste. »
Le cheval se soumit au désir du renard, qui trottina jusqu'à la tanière du lion qu'il connaissait bien et savait pas loin de là. Et il s'adresse au lion. « Hé, le lion, il y a là-bas un cheval mort. Viens, sors avec moi. Je vais t'y conduire, et tu pourras faire bombance !»
Le lion suivit le renard, et lorsqu'ils furent près du cheval mort, le renard dit au lion, « Écoute, tu seras jamais assez tranquille par ici pour prendre tout ton temps. Tu ne sais pas ce que nous allons faire ? En me servant des crins de la queue du cheval, je vais l'attacher solidement derrière toi. Et tu n'auras plus qu'à le traîner dans ta tanière, où tu pourras là le dévorer tout à loisir. »
Le lion trouva l'idée excellente et se prêta de bon gré à la manœuvre, se tenant bien tranquille pour que le renard pût l'attacher au cheval en serrant solidement ses nœuds. Mais le renard, pendant ce temps, se servait de la queue du cheval pour lier étroitement les pattes du lion, bouclant, serrant et resserrant ses liens les uns sur les autres, de telle manière qu'il ne put ni les rompre, ni les défaire, même en y mettant toute sa force. L'opération terminée, il se pencha vers le cheval et lui frappa l'épaule en lui disant « Hé, mon bijou, tire-le, tire-le, tire-le » Le vieux cheval se redressa brusquement et traîna derrière lui le lion. Et il avait beau rugir si fort que les oiseaux de la forêt s'envolèrent, mais le cheval, lui, laissa le lion rugir autant qu'il le voulait, sans cesser pour autant de le tirer à travers champs jusqu'à la porte de la maison de son maître.
Quand le maître a vu ça, il est revenu à de meilleurs sentiments. Et lui a même dit « Allez, je te garde, tu auras la belle vie. »
Et depuis ce jour-là, jusqu'à la mort du cheval, eh bien, il eut toujours son content à manger et le meilleur fourrage.
Et voici une autre histoire issue des contes du ghetto de Benzimet.
Un jour, Schmel voulut monter à cheval. Et il fut incapable de se hisser sur l'animal. Ah là là, où est passé le temps de ma jeunesse ? Se lamentait-il. Puis, il se rapproche du cheval, il jette un coup d'œil de droite, de gauche, et comme il ne voit personne, il ajoute à voix basse à l'oreille du cheval « Tu sais, dans ma jeunesse, je n'y arrivais pas non plus. »
Et voici un dernier conte pour conclure, un grand long conte. Alors mes chères auditrices, mes chers auditeurs, j'espère que vous êtes bien installés dans le fauteuil de votre voiture ou de votre salon. Parce qu'on est parti pour un long moment. Vous êtes prêts ?
Il était une fois un roi qui avait une fille. Ah, plus belle que les étoiles, plus belle que le soleil. Et le comte ne dit ni pourquoi ni comment cette fille est tombée en servage chez le grand diable d'enfer pour quelque pacte entre son père et le démon, peut-être. Fait par une nuit de pleine lune en la tour rouge, ou bien pour quelque sort jeté par une mauvaise reine un soir que la belle chevauchait au fond de la forêt. Mais suffisait qu'elle fût belle. La beauté attire la tribulation, comme à ce qu'on dit, l'or attire la foudre. Le roi son père a su qu'elle était chez le grand maître et changée en jument. Au râtelier entre tous les chevaux du diable. Il a fait courir par le pays qu'il la donnerait en mariage à celui qui saurait la tirer des griffes du grand maître, la délivrer et la ramener. Un soir, un garçon se présente. Bon bras, plein de courage, bon corps pour travailler, enfin tout bon, comme une cheminée de maison, et vaillant comme le feu. Sa mère n'était pas fille de la poule blanche et sa grand-mère n'était pas cousine de l'arc-en-ciel. Mais il offrait de se jeter à travers les hasards où prince ni baron ne voulaient rien tenter. « Toi ?» dit le roi. « Toi ? Tu veux l'entreprendre ? Penses-tu réussir ? Et sire le roi, je ne sais si je réussirai, mais je l'entreprends. » Il est parti. Il est allé tout droit s'engager comme palefrenier chez le grand maître, le diable. Le vivre n'y est pas bon et le service est rude. Car le garçon s'appelait Pierre. Pierre n'était pas trois matins aux écuries qu'il a su. Retrouver la belle, la fille du roi. Elle était là, sous forme de jument, une jument toute de robe blanche. La jument blanc, disait ma grand-mère. Elle comptait les contes en patois. Mais ces deux mots français y revenaient toujours. La jument blanc. La fille du roi, donc, avait tout d'une jolie cavale aux poils de neige, à la crinière d'argent. Elle avait cependant conservé la parole humaine et la lueur humaine au fond de son grand œil. Du milieu d'un vrai train d'enfer, paille et fumier sautant, fouet et jurons claquant, Pierre, tout doux, a pu lui parler. Il lui a dit pourquoi il était là, pourquoi il s'était fait palefrenier chez le diable, et que sa grande affaire, c'était la ramener au jardin de son père. Elle a vu Pierre si plein de cœur et si hardi à l'entreprise qu'elle a osé le croire. En entente, tous deux, ils viendraient quelques jours à bout du diable et de ses diableries. Alors, dans cet espoir venu, comme elle a regardé le garçon qui était là pour elle, comme elle s'est remise à vivre. Mais prends-toi garde, ô Pierre, prends-toi garde. Il faudra tout bien calculer, puis faire comme la foudre. Dès que vous me direz de faire, rien ne me coûtera. Partons dans le vent, à tout risque. Et rien que cette voix de Pierre, sa voix de bon vouloir, lui a remué le cœur. Mais dans son sort d'endémonié, elle voyait les choses aussi bien que le diable, ou mieux. Car il y aura toujours plus de finesse du côté du cotillon que du côté de la culotte. Partir tout de suite? Ah non, non, non. Attendons que le maître parte, qu'on le sache en campagne, à 1000 lieues d'ici. Pierre a su souplement manœuvrer aux écuries. On fait une corvée pour quelques camarades, on paye chopine au maître palefrenier. Même chez le diable, on a tout en payant à boire. En fin finale, Pierre a été chargé de panser la jument blanc. Le matin, lui donner l'avoine, et le soir, lui donner la paille. Au lever du soleil, il tressait sa crinière. Il les triait au coucher du soleil. « Étrie-moi bien fort! Étrie-moi plus fort !»« Oh, pauvre jument blanc, non, j'ai peur de vous faire mal. Non, 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 étrie-moi! Je te demanderai plus forte chose un jour. Étrie-moi! Étrie-moi !» Il n'aurait pas osé la caresser, ni seulement lui poser la main dessus. Mais au pansage, il y allait tant qu'il y pouvait, et de fait, plus il l'étriait, et plus elle prenait de beauté, de vigueur. Sa robe blanche luisait comme la lune de mai après les grandes pluies. En étriant, il disait ce qui se passait au logis, en bouchonnant ce que disait le grand maître. « Sera-ce cette fois ? » a-t-il couru une matinée demandait à la jument blanc. « Le grand maître est parti pour le château de Plaisance. Ce n'est pas assez loin, ce n'est pas assez tôt. Nous faut prendre patience. » Une semaine après, au matinée, par beau soleil levant, Pierre tout courant est revenu. Et cette fois, le grand maître est parti pour le bois des quatre vents. Ce n'est pas assez loin, ce n'est pas assez tôt, nous faut encore attendre. Une semaine après, dès l'aube grise, Pierre est arrivé hors d'haleine. Et cette fois, a-t-il murmuré à l'oreille de la jument blanc, le grand maître vient de partir pour le fin bout du monde. Alors, c'est notre tour. Vite, comme la foudre, bride-moi, saute en selle et partons. « Dépêchons! Tiens-toi ferme, surtout! Ne va t'avise pas de choir! Il va falloir aller si nous savons aller !» Et toute la journée, la nuitée, sans décesser, elle a couru et galopé, galopé. galoper vers le royaume de son père. Le sable et les cailloux volaient sous ses sabots. À grand train, toujours plus grand train, par la grande lande. Au matin, quand le soleil a levé la rosée, des traînées de brouillard ont monté de partout. Puis le soleil les a levées aussi. Alors la jument blanc, fuyant à toute bride, a dit au cavalier « Pierre, retourne-toi de moment en moment. Regarde bien si tu ne vois rien sur la route. » « Oui, oui, je regarde, jument blanc, je regarde. Mais je ne vois rien que les moutons dans la plaine et la bergère à les garder. Pierre, Pierre, tâche d'ouvrir les yeux !» De réchef, au premier détour, Pierre se retourne. « Et jument blanc, je ne vois rien que la poudre de notre course qui traîne encore une lieue derrière. » Au deuxième détour, sans attendre, il tourne la tête. « Ah, cette fois, tout là-bas, oh là, tout là-bas, je vois un autre nuage de poudre qui s'élève. » Au troisième détour, il tourne la tête encore. « je vois ce nuage qui gagne. Il arrive, il arrive. « Le diable vient sur nous !» a dit la jument blanc. Elle file, bride abattue, file à raser la terre. Et elle perd du terrain pourtant. Alors, elle a crié. « Laisse tomber la brosse !» Cette brosse tombée s'est dressée derrière eux, une forêt obscure. Si serrée y est la futaie, la branche y est si noire, si retombante et si drue le hallier, la ronce y jette tant d'arceaux qu'on n'y voit pas à s'y frayer chemin. Il n'a pas bon le diable, si rapide soit-il, si véhément et si terrible, à traverser cette forêt sauvage. Pierre, Pierre, veille toujours et tiens-toi ferme en selle. Mais de moment en moment, retourne-toi, surveille la route derrière nous. Et je ne vois rien, ma jument blanc, si ce n'est le chemin poudroyant de cette poudre qu'a levé notre course. Regarde bien, Pierre, mon ami Pierre, regarde bien. Oh, 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 maintenant, par là-bas, au débouché de la forêt, je vois monter un autre nuage de poudre. Grossit-il, Pierre, grossit-il? Eh oui, jument blanc, il grossit, et vite, et il approche. Pierre, Pierre, c'est le grand maître, laisse tomber les trilles! Sitôt l'étrille tombée, s'est dressé derrière eux tout un canton de rocs et de ravines, des escarpements, des à-pics, des plongées, et leur remontée, les uns derrière les autres, parois de pierre, clapiers, éboulis. Si véhément et terrible soit-il, il n'a pas bon le diable à escalader, dévaler un tel canton de roches et de précipices. Il presse sa monture, mais 20 fois, 30 fois, manque de culbuter pêle-mêle avec son cheval et cul par-dessus tête. La jument blanc, cependant, file ventre à terre, vite et plus vite et encore plus vite. Et sans doute qu'elle a repris un peu d'avance. Elle vole comme l'hirondelle en sa lancée par le milieu de l'air. Et vole, mon cœur vole. Ah, tiens-toi ferme, Pierre, mon ami Pierre. J'entends l'air de la course siffler dans tes cheveux. Je me tiens ferme, ma jument blanc, et je regarde. Regarde bien. Derrière nous, surveille notre route. Je ne vois rien, si ce n'est la queue du chemin qui est encore à poudroyer. Et maintenant, Pierre, mon ami Pierre, oh, maintenant, au débouché du pays des roches et de ravines, je vois un autre nuage de poudre qui se lève. Il grossit, il approche vite. Oh, c'est le grand maître, il va nous rejoindre. Prends l'éponge à présent, laisse-la tomber derrière nous. Cette fois, c'est une mer qui s'étend derrière eux. Une mer, lame par lame, qui s'étale, prend du large à travers les campagnes. Ah, la fine fille, comme elle a su prévoir et garantir. Le grand maître, si furieux soit-il, il faut qu'il la contourne. Au diable Vauvert, il faut qu'il aille chercher un détour qui n'en finit plus. La jument blanc, elle, cependant, ne va plus comme un cheval, mais comme le vent en l'ouragan. Oh Pierre, mon ami Pierre, peut-être serons-nous sauvés. Je reconnais les arbres et les routes. Je sens passer cet air qui passe au jardin de mon père. Nous sommes à présent en terre de chrétienté, et plus rien ne nous peut le diable. Enfin, ça n'a plus été cette folie de la course, ce vent qui ronfle, cette poussière qui fuit. La jument blanc allait galopant sans effort le long des vertes haies. Et tout à coup, Pierre a aperçu sur le gazon une plume dorée. « Oh, jument blanc, vois-tu la belle plume ? Arrête que je la ramasse !»« Non, Pierre, mon ami Pierre, ne la ramasse pas. Elle ne rapporterait qu'embarras et qu'ennui. Oh, si, cette plume est trop belle. Et nous revenons de trop loin. Je veux rapporter la plume d'or. » Ah, comme il aurait dû écouter Samy, la jument blanc, qui l'avait si bien conseillé en toutes choses. Mais aller empêcher un garçon qui vient de l'emporter en une rude affaire, de se sentir tout glorieux, Pierre voulait piquer la plume d'or à son bonnet. Il ne la mise pourtant qu'entre sa chemise et sa casaque, étant allé la ramasser sur l'herbe. Un peu plus loin, toujours sur ses frontières de la terre de chrétienté, il a vu briller un fer à cheval. Et ce fer était d'or aussi. Oh, jument blanc, le beau fer à cheval. Oh, il faut que je le prenne. Pierre, mon ami Pierre, laisse là ce fer à cheval. Il ne t'apporterait qu'embarras et qu'ennui. Oh, si, il est trop beau. Et nous revenons de trop loin. Je veux rapporter au pays ce fer à cheval qui est d'or. Il a sauté à terre, a pris le fer et l'a mis dans sa poche. Continuant leur route, sont arrivés au bord d'une rivière. Dans un petit prado, parmi les jaunes fleurs d'iris, ils ont vu se débattre un énorme poisson. Ils s'y étaient engagés en se jouant par imprudence, et l'eau ayant baissé sous les rays du soleil, ils ne pouvaient plus en sortir. Le pauvre ouvrait une gueule béante et suffoquait près de sa mort. « Pierre, descends. Va prendre ce poisson. » Et remets-le dans l'eau. « Oh, jument blanc, est-ce la peine que tu t'arrêtes ? Que nous fait ce poisson ? Dépêche, galope par la plaine, que nous soyons tantôt au château de ton père. Pierre, mon ami Pierre, tu t'en trouveras bien. Fais ce que je te demande. » Pierre l'a donc fait, sans hausser les épaules, pour l'amour de sa jument blanc, puisqu'elle attendait cela de lui. Que leur faisait pourtant ce gros poisson sa vie, sa mort, Lui, Pierre n'aurait même pas à se faire gloire de l'avoir pris pour leur souper, alors qu'il se sentait tout fier de rapporter le fer d'or, de rapporter la plume d'or. Enfin, il a de nouveau sauté à terre, saisi le poisson par les ouïes, dans les feuilles d'iris, et l'a reporté à la rivière où il l'a laissé nager. Tu viens, a dit le gros poisson, de me rendre la vie. Si quelque jour tu avais quelque affaire de rivière, de lac ou de mer, parais seulement sur ce bord, appelle-moi trois fois. À moi, roi des poissons, tu diras. Dans le moment, tu me verras, car tu as pour toujours le roi des poissons à ton service. Trois jours de galop encore, il a fallu. Enfin, la jument blanc et Pierre, son cavalier, sont arrivés devant le château du roi. Et les trompettes ont sonné. Quel accueil ! Quel accueil ! Et du roi, et de tous ses sujets ! La jument blanc, cependant, demeurait blanche cavale. Pierre continuait de prendre soin d'elle avec tout ce qui se peut d'amitié, au lever du soleil, de tresser sa crinière, de l'étriller au coucher du soleil, espérant, puis désespérant, n'ayant de pensée que pour elle et pour son sort. Et elle, délivrée, mais toujours liée à ce sort, elle n'avait de pensée que pour lui, qui était venu la chercher chez le diable, qui l'en avait ramenée. Un matin, elle lui a dit, « L'heure est venue. Il faut que tu me donnes un coup de couteau dans le flanc. « Oh, jument blanc, ma jument blanche, mais jamais je ne ferai ça. »« Il faut que tu le fasses. »« Mais je ne peux pas le faire. »« Ne t'es-tu pas bien trouvé de faire ce que j'ai dit ?»« Et tu te serais mieux trouvé encore de m'écouter en toute chose, hein, pour le fer d'or et la plume d'or. »« Fais ce que je te demande. » Il était bien hardi, prêt à se jeter en tout hasard. Et devant ce hasard-là, il s'apeurait. Il avait couteau au côté, mais il n'avait pas le courage pour faire telle besogne. Sur la parole de sa chère jument blanc, il s'est décidé pour finir. Il a tiré le couteau d'or fin de la gaine, planté dans le côté de la jument blanc. Aussitôt, la cavale a disparu et est apparue la fille du roi, sous forme de fille. C'était un mauvais sort, puisque le sang l'a défait. Ceux qui s'entendent à ces choses le savent. Pour dédémonier les loups-garous, il faut les blesser au gros sang, d'un coup d'épieu, d'un coup de hache. La belle était délivrée cette fois, la belle des belles, plus belle que les étoiles, plus belle que le soleil. Ne restait qu'à faire les noces. Et le roi, cependant, fronçait le sourcil. Ce Pierre, ce garçon, ce palefrenier, qui n'était rien, qui n'avait rien, épousait la fille du roi, toute couronnée en diamants. Et le roi se raidissait devant ce mariage comme barre de char. Le pauvre Pierre alors a eu une idée bien fâcheuse. Il s'est fait gloriole de la plume d'or qu'il avait rapportée. Il l'a piquée à son bonnet. Le roi lui a dit, « Une plume ne saurait suffire. Je te donnerai ma fille que quand tu apporteras l'oiseau qui porte plumage d'or. » Et Pierre, en grande peine, n'a pu qu'aller rapporter cela à sa belle prétendue. « Pierre, mon ami Pierre, si tu avais su m'entendre. Maintenant, va faire une cage toute d'or, entends-tu? Et lorsque tu l'auras, porte-la à l'endroit où tu as ramassé la plume. Là, tu en ouvriras la porte, tu crieras bien haut par trois fois. À moi, l'oiseau des plumes d'or, et l'oiseau viendra, il entrera dans cette cage Alors tu la refermeras et tu la rapporteras à mon père. »
Aussitôt dit, aussitôt fait. Ainsi dit et ainsi fait de point en point.
Pierre croyait qu'il n'avait plus qu'à faire les noces.
Mais le roi continua de froncer le sourcil et Pierre n'a pu se tenir, le fol, de montrer le fer d'or, d'en faire aussi parade.
Et le roi dit, « Qu'est-ce qu'un fer d'or ? Je ne te donnerai ma fille que lorsque tu auras rapporté le cheval qui porte ferrure d'or. »
Voilà Pierre en plus grande peine que jamais. Il n'a su qu'aller rapporter cela à sa belle prétendue. Que les amoureux ont de peine, que les amoureux ont de mou.
Pierre, mon ami Pierre, si tu avais su m'écouter. Maintenant, va faire belle selle, bride et harnachement d'or. Lorsque tu les auras, porte-les à l'endroit où tu as ramassé le fer. Là, tu crieras bien haut trois fois. À moi le cheval dont la ferrure est d'or.
Trois fois, tu entends? Et le cheval viendra.
Bride-le, mets la selle sur le dos, monte-le et amène-le à mon père.
Ainsi dit, ainsi fait, et tout, de point en point.
Pierre croyait cette fois qu'on allait bien faire les noces.
Et lui, il se gardait de donner prise au roi une troisième fois.
Le roi s'est mouché sans rien dire. Puis il s'est mouché de nouveau. Et il a dit,
« Depuis trois jours, je suis en peine. Il y a trois jours, pour mes raisons, je me suis mis en colère. Dans ma colère, par la fenêtre de ma plus haute chambre, j'ai envoyé au milieu de la mer mon bâton de roi et ma couronne.
Il faut que tu me les rapportes, sans quoi les noces ne peuvent avoir lieu. »
Voilà Pierre en plus grande peine que jamais. Il n'a su qu'aller rapporter cela à sa belle prétendue.
Sa couronne et son bâton de roi, comment les retrouver au fin fond de la mer? Ah, je vois bien que sous couleur de me demander cela, il ne veut que rompre sa promesse. Alors il vous fera épouser par quelque autre le fils d'un duc, un prince couronné.
Va, je suis pour être ta femme. Nous avons traversé ensemble de pires hasards. Ne désespère pas maintenant.
Mais le roi veut sa couronne et son bâton royal. Que lui dirai-je? Que ferai-je?
Pierre, mon ami Pierre, ne te souvient-il plus que tu as sauvé la vie au grand roi des poissons?
Recours à lui, présentement. Appelle-le à ton aide.
Pierre a couru vers la rivière et il ne s'est arrêté qu'à la rive.
À moi, roi des poissons!
Et Pierre a vu bouillonner une écume au loin.
À moi, roi des poissons!
Et l'écume est venue vers lui.
À moi, roi des poissons!
Et le roi des poissons était à ses pieds.
Pierre lui dit qu'il faudrait retrouver au fond des eaux le bâton du roi et la couronne du roi.
Le grand roi des poissons a embouché son corps.
Aussitôt, de la mer, des fleuves, des rivières, sous un remuement d'eau et des bouillons d'écume, accourent à la foule tous les poissons du monde.
En est-il un de vous qui ait trouvé la couronne et le bâton de roi?
Le grand roi des poissons le leur a demandé une première fois. Et de ceux qui sont là, pointant la tête hors des ondes, pas un n'a répondu. Il le leur a demandé une deuxième fois, puis une troisième fois.
Alors le roi des poissons s'est mis à compter les poissons en présence.
Oh oh!
Il me manque un poisson, celui que je sais bien. »
Alors, il embouche son corps. Et sous un bouillon d'écume, on a vu le poisson qui manquait arriver à la grande assemblée des poissons.
Hé, l'attardé, pourquoi tant de retard ?
Ah, grand roi des poissons, c'est qu'au fond de la mer, j'ai trouvé quelque chose que je n'ai pu avaler de ma gueule. Je ne m'en suis pas dépêtré, j'ai dû le traîner jusqu'ici. C'est le bâton, c'est la couronne.
Le grand roi des poissons les a remis à Pierre. Pierre l'a remercié, et sans s'attarder, il a couru remettre au roi, le père de sa belle, le bâton et la couronne du roi.
La belle l'attendait sur la porte du château. Elle l'a vu de loin revenir, apportant couronne et bâton. Dans ses deux bras l'a pris, et tous les soudards de son père ne l'en auraient plus arraché. À travers les hasards, et sans laisser la peur ou la mauvaise fortune attaquer l'amitié, ils avaient su, ces deux-là, rester fidèles. Fidèles comme l'or et l'argent que n'attaque jamais la rouille. Nous sommes pour être mari et femme, et cette fois, enfin, les noces se sont faites.
Pour se rattraper de l'attente, eh ben, on a fait durer les noces pendant 7 jours. Les moutons se promenaient tout rôtis par la ville, en détachaient épaules ou gigots, qui voulait. Et pauvre de moi qui n'ai pas su m'y prendre. C'est le mouton qui m'a détaché un coup de pied. Eh oui, et quelle ruade, puisqu'elle m'a du pays de Pierre et de sa belle envoyé jusqu'ici à Radio FM+, dans le bocal où je suis. Et en face de Yann, le grand technicien magicien sans lequel tout ceci ne pourrait pas se faire. Je vous souhaite donc un très joyeux samedi. Je vous remercie aussi d'avoir su avoir la patience de rester jusque-là et vous souhaite de bonnes choses. Et vous dis à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.